un sujet un peu vaste que l'autre. J'ai essayé, parce que je suis procureur de la République, de le resserrer un peu en utilisant, certains penseront non sans malice, la devise de la République, ne serait-ce que parce qu'elle est en trois points, mais pour l'aborder, je cherchais tout à l'heure en me promenant dans Bordeaux comment on pouvait le faire. Ah, chacun de vous marche, n'est-ce pas ? Marche en ville, fait du vélo, conduit. Et j'avais le sentiment parfois d'une certaine transparence dans une rue surpeuplée. J'avais le sentiment qu'en définitive, les autres étaient seuls avec moi. Déjà les autres. Comme j'ai le sentiment parfois sur la route que ceux qui conduisent sont seuls. Les autres n'existent pas. Dans bien des situations, on peut le constater. Marcher dans une rue, à Bordeaux ou ailleurs, c'est nous voyer en permanence. L'autre est seul. Et vous rend seul. Il faut s'écarter. Toujours. C'est la nature humaine qui conduit sans doute à cet état de choses. Encore qu'il me semble que, je ne sais pas si c'est un progrès, que la progression, en tous les cas, de la société est de ce point de vue particulièrement négative. Il me semble qu'effectivement, chacun a tendance à considérer que son activité, sa pensée, sa conviction l'emporte nécessairement sur celle des autres. Procureur de la République, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui étymologiquement prend soin de l'intérêt général. Oui, on a un peu tendance à considérer que procureur de la République, c'est un peu le procureur du gouvernement, celui de l'État, etc. Non, pas du tout. C'est le procureur de l'intérêt général. Alors, est-ce que finalement il était inéluctable qu'on crée une institution judiciaire ? Est-ce qu'il était inéluctable qu'on crée des lois ? Chacun pouvait se dire que la liberté étant un bien fondamental, chacun pouvait l'exercer en ce qui le concernait, dans le respect de celle des autres. Puis, il faut bien constater, n'est-ce pas, que on ne peut pas le faire. Il faut bien constater que l'égoïsme l'emporte très généralement sur l'altruisme et que la nécessité de la loi s'impose du fait même de la nature humaine. Il n'y a pas une volonté de pouvoir dans la loi. Il y a une volonté de permettre à chacun d'exercer sa liberté dans le respect de celle des autres. Et d'abord, la liberté collective et non pas la liberté individuelle. Les exemples foisonnent de ce que cette liberté, nous l'utilisions si mal. La liberté d'agir, constamment. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons. La liberté de penser. Cette liberté que nous nous accordons si volontiers, que nous contestons si facilement aux autres. C'est vrai, et c'est évident, qu'il est difficile de parler ensemble. Il est difficile parce que chacun a le sentiment qu'il a raison et qu'il n'accepte pas la discussion de sa propre conviction. Cette liberté-là, c'est celle de chacun. Mais naturellement, elle va contredire celle des autres. La liberté, tenez, prenons un exemple qui me tient à cœur parce que je suis dans une ville où le phénomène est récurrent. La prostitution. Prostitution, c'est finalement l'expression d'une liberté. Le droit qu'a une femme ou un homme de disposer de son corps. Je ne dis pas que ça signifie que cette liberté s'exprime dans la volonté. Non, on peut être contraint à la prostitution, de mon point de vue, on l'est sans doute. Mais pour la limiter, ce que n'a pas fait la loi, on est allé chercher quoi ? La liberté des uns et des autres, souvent, de ne pas être dérangés. Oui, j'ai l'impression que dans notre société, la plus grande des libertés, c'est celle qui consiste à ne pas vouloir être dérangé par les autres. Ça me paraît être contradictoire avec l'idée même de liberté. J'ai un souvenir ancien du temps où j'étais substitut à Caen, à l'université, ça va être le cadre qui me rappelle cet événement, à l'université, on avait invité des chefs d'entreprise qui étaient venus là dans une commission emploi, université emploi, essayer de trouver des débouchés aux étudiants. Liberté d'être utile aux autres. Un certain nombre d'étudiants n'avaient rien trouvé de mieux avec le concours de quelques professeurs que d'intervenir, de séquestrer les chefs d'entreprise parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on puisse porter atteinte à leur liberté. Curieux, non ? Il a fallu intervenir assez vigoureusement et faire en sorte que la liberté de tous soit respectée. Mais j'ai le sentiment en permanence que, alors que l'idéal de justice serait qu'elle n'existe pas, parce que la société serait idéale, eh bien la justice aujourd'hui a une activité chaque jour plus grande. C'est vrai qu'il semble que l'exercice de la liberté soit pour nous si égoïste qu'il faut nécessairement un tiers, le juge, pour intervenir, pour séparer les uns et les autres, pour permettre à chacun d'exercer la liberté dont il peut disposer. Nous sommes dans une phase de la société où le juge doit intervenir constamment. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il me semble que ce n'est pas la place du juge. La place du juge, c'est lorsque tout a échoué. Et je raconte volontiers que dans ma circonscription, il y a un député UMP auquel l'UMP a préféré un autre candidat pour les législatives. Parti de l'avis d'un parti. Bien qu'a fait ce candidat évincé, il s'adresse à la justice pour dire que son parti a eu tort de l'écarter. Imaginez la perplexité du juge qui va devoir choisir, s'il suit la demande qu'on lui fait, entre deux candidats. Le juge est devenu le premier des électeurs. Mais c'est vrai aussi en matière d'inéligibilité. Vous savez qu'aujourd'hui, la règle conduit le juge, lorsqu'un élu est corrompu, par exemple, à l'écarter. Alors qu'on l'écarte, ça me paraît sain. J'aurais préféré que ça se fasse autrement, mais bon, le juge est saisi, il va écarter celui qui a trompé l'électeur. L'électeur pouvait que l'élu était honnête, que le candidat à l'élection était honnête. Donc, il y a une légitimité du juge pour faire respecter, ne serait-ce que la liberté de vote, à écarter celui qui a trompé l'électorat, qui a fait croire qu'il était quelqu'un d'honnête, parce qu'on ne peut pas imaginer, n'est-ce pas, qu'un élu soit malhonnête. Alors, si le juge écarte l'élu corrompu, c'est normal. Ce qui l'est moins, et qui pose, à mon avis, un réel problème de démocratie dans ce pays, quant à la place du juge notamment, c'est que le juge va avoir le pouvoir de dire « celui-ci est écarté », mais en plus, pendant un certain nombre d'années, il ne pourra pas être candidat à l'élection. C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur la place du juge, parce qu'à ce moment-là, le juge n'est plus le juge de l'élu corrompu seulement. Il devient le juge de l'électeur. celui qui va dire à l'électeur, celui-là, vous ne pouvez pas l'élire. C'est d'autant plus grave que l'on constate que les élus corrompus, quand ils peuvent se représenter à l'élection, ont quelque chance d'être élus. Au point que je me demande parfois si la justice n'est pas devenue une sorte de distributeur de labels. Voilà, il est corrompu, vous pouvez l'élire. Question que je me pose quelquefois. J'essaie de ne pas y penser trop quand même. Donc, vraiment, place du juge. Est-ce qu'il est naturel que celui qui a le pouvoir de faire les lois ne les fasse pas? Le législateur doit faire les lois, doit réguler ce qui mérite de l'être. Alors, deux aspects de la question, deux extrêmes. D'une part, il en fait trop, d'autre part, il n'en fait pas assez. Trop sur peut-être des petites choses. Quelque temps, sur une plage de Nice, deux voisins de plage, dans ces endroits un peu saturés l'été, se sont un peu pris de bec. Voilà, l'un des deux était CRS et l'autre nourrissait les pigeons. Le CRS, en maillot de bain, a verbalisé celui qui l'agaçait et qui nourrissait les pigeons parce que c'est une infraction. Parce qu'on ne peut pas se poser la question. Ce n'était pas au moment de la grippe aviaire, c'était bien avant. Bon, il n'y avait pas d'impératif sanitaire, de santé publique ou quoi que ce soit. Non, non. Il est interdit de nourrir les pigeons sur les plages. Alors, vous en avez une pas loin, je vous suggère d'y faire attention. Peut-être pas de pigeons non plus, ça va être l'avantage. Mais voilà, est-ce qu'on peut ne pas légitimement s'inquiéter de voir la place donnée à la loi dans notre société? Comme s'il y avait chez nous tous une totale incapacité d'exercer nos libertés sans qu'une règle vienne nous contraindre à les limiter dans l'intérêt général. On l'a vu aussi récemment, et c'est sans doute un échec social de mon point de vue, lorsque le législateur en est venu à l'interdiction de fumer. Pense qu'on veut de la cigarette. Le problème, c'est que, effectivement, on a acquis cette idée, elle n'est sans doute pas fausse, que lorsque quelqu'un fume, à côté, celui qui ne fume pas en profite. Il y a quelques années, quand Madame Veil a la première fait voter un texte sur l'usage du tabac, je me souviens d'avoir salué auprès de son cabinet l'espèce de miracle législatif qui consistait à dire, voilà, il ne faut pas fumer dans tel ou tel endroit, mais ne pas prendre de dispositions pénalisantes. C'est-à-dire que c'était interdit, mais on ne demandait pas au juge de condamner. Et il n'y a pas, je crois, de condamnation pour quelqu'un qui aurait fumé dans un endroit illicite. Et c'était une bonne chose, la loi indicative, la loi cadre. Voilà, pour vous tous, voilà comment il faut se comporter. Mais on sent bien que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il devient nécessaire absolument de pénaliser les comportements qui seraient contraires à la loi. Ce n'est pas un signe de progrès, et sûrement pas pour la nature humaine, ni pour la société dans laquelle nous vivons. Cela signifie que la place de l'autre se réduit chaque jour davantage, et qu'il va falloir non seulement la loi, c'est-à-dire la norme pour le dire, mais aussi un juge pour l'imposer. Ça me paraît grave. L'autre extrême, c'est le juge qui doit se substituer au législateur, qui ne prend pas les décisions nécessaires. On le sait en matière de stupéfiants, où depuis des années, exactement depuis 1970, le débat est ouvert. La dernière loi importante, je ne parle pas des petites modifications en passant, la dernière loi importante date de 1970, qui a interdit l'usage des drogues, hashish, héroïne, cocaïne. Bon, je vous le dis parce que je le constate, la cocaïne est en train de flamber partout. On voit chaque semaine, dans les circonscriptions où je suis, on interpelle des gens qui trafiquent, et les quantités sont de plus en plus importantes. trafic, on a les moyens de le réprimer, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est l'usage. On pourra penser que si des gens trafiquent de l'héroïne, de la cocaïne, ou du hashish même, il n'y a pas de drogue douce à drogue dure dans mon point de vue, en tout cas pas selon le point de vue de la loi, c'est qu'il y a un marché. Et ce qui doit nous intéresser, c'est le marché. Essayer de convaincre nos concitoyens que l'usage, et surtout les plus jeunes, que l'usage de produits stupéfiants est un usage dangereux. Très difficile de le faire admettre. Difficile de le faire admettre parce que le discours public dit le contraire, parce qu'on a inventé cette notion de drogue douce, cette drogue dure. C'est assez dire aux plus jeunes, aux plus fragiles, la drogue douce, c'est pas un problème, puisqu'elle est douce. Dure, non. Mais ça permettra de penser que on a pu voir sur les tables d'autopsie beaucoup, beaucoup d'adolescents qui avaient commencé par des drogues douces. Il n'y a pas de frontière intangible. Le discours public dit parfois de grandes sottises. On a entendu des élus d'importance nationale même nous expliquer que, bon, petit pétard, ça ne faisait pas de mal. Ils avaient dû en prendre un en le disant ce jour-là. En tout cas, ça me paraît inacceptable. Mais ce qui est encore plus inacceptable, c'est que dans ce contexte, rien ne varie. Il n'y a pas de débat au Parlement, parce que c'est un débat difficile, parce qu'on ne sait pas ce que pense réellement l'opinion publique, et qu'aujourd'hui, c'est l'opinion publique qui forge la loi. Tant qu'on ne sait pas ce qu'elle veut, on préfère ne pas toucher. C'est vrai dans d'autres domaines. On n'est pas très loin de Bègle, autant que je me souvienne. Bègle, c'est le mariage homosexuel. Aujourd'hui, l'état de la loi, c'est on ne sait pas. Il y a un code civil dont on a pensé les uns et les autres, je parle des magistrats, que, enfin ça dépend, ceux qui préféraient la loi à leur conviction en tous les cas. Les autres, c'est autre chose. Penser que le mariage, c'était deux êtres de sexe différent. Bien. Donc les juges ont tranché, faute que la loi ait tranché. Et les juges de Bordeaux ont dit non, il faut un homme et une femme. Vous avez entendu la classe politique, vous avez peut-être suivi depuis déjà quelques années la campagne électorale présidentielle de 2007, et vous avez sans doute compris que, au gré des mouvements d'opinion, oui, non, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on ne comprend pas trop. Tiens, lui, on le croyait démocrate chrétien, il est pour alors. C'est un peu surprenant parfois. Voilà, c'est le paysage de l'exercice des libertés dans notre pays. La justice y a un rôle prépondérant, et je vous le dis, c'est dramatique. Sauf à ce qu'on veuille installer progressivement la République des juges, leur donner ce pouvoir de légiférer indirectement, puis d'intervenir ensuite sur le fond normatif dont nous disposons pour obliger une société à se comporter dans le respect de l'autre, est un échec cuisant pour un pays qui se vante depuis bien longtemps d'être l'un des meilleurs du monde et le plus exemplaire. Liberté, égalité, égalité. Alors c'est vrai que ne confondons pas égalité, égalitarisme, l'égalité parfaite n'existe pas, je suis bien d'accord là-dessus. Enfin quand même, d'expérience, je puis vous dire, moi comme procureur depuis plus de 30 ans, qu'il est difficile d'avoir réellement un sentiment d'égalité quand on voit fonctionner la justice, réellement. Je crois que c'est sans doute ce qui condamne le plus l'institution aujourd'hui. Ce choix qu'elle fait en permanence des plus puissants contre les plus faibles. Pas une nouveauté. Pot de terre contre le pot de fer. Selon vous serez puissant ou misérable. Ça n'est pas de 2006. C'est depuis bien longtemps. Mais c'est vrai qu'on peut s'affecter de considérer que l'évolution ne s'est pas faite réellement. C'est vrai que depuis quelques années, la justice a commencé à demander des comptes à une partie de la population qui n'en avait guère l'habitude, qui se croyait intouchable, qu'il est aussi encore pour partie. C'est vrai qu'il est toujours plus difficile aujourd'hui de poursuivre un notable que quelqu'un qui vit dans une cité ou dans n'importe quel quartier, qui n'a pas de notoriété. J'allais dire pas de couverture sociale, mais c'est pas le sens de l'expression qu'on utilise habituellement. Oui, il n'y a pas d'égalité, non pas devant la justice. Théoriquement, il y en a une. Devant le juge, il y en a un peu moins. Il est nettement plus difficile, je vous le dis, de poursuivre les uns que les autres. Mais après tout, qui est-ce que ça gêne? À part de temps en temps, des situations vraiment trop flagrantes pour qu'on ne s'interroge pas, mais est-ce que nous avons, les uns ou les autres, un vrai sentiment d'égalité? Est-ce que nous considérons, devant la loi, qu'elle s'applique à nous autant qu'aux autres? Est-ce que notre première réaction n'est pas de dire, mais oui, pour lui c'est bien, oui, parce que lui, il n'est pas intelligent, il n'est pas aussi intelligent que moi, donc il lui faut la loi, mais moi, je vais y arriver. Le nombre de gens qui c'est toujours tout simple, qui franchissent un stop, et qui disent, mais non, il ne sert à rien, ce stop. Rien, oui, pour les autres. S'ils doivent me protéger, bon, c'est bien, mais moi, non. Parce que nous avons vraiment, nous, un tel besoin d'égalité pour les autres. Alors pour nous, ça je suis sûr. Nous aimons tous la justice quand elle répare ce dont nous sommes victimes. Est-ce que nous aimons vraiment la justice? Je soutiens que pour aimer la justice, il faut qu'elle vous ait condamné. Et celui qui, ayant été condamné par les juges, est capable de les remercier pour avoir bien rempli leur office, celui-là aime la justice. Celui-là, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, sauf preuve du contraire, j'imagine que quelques-uns pourraient me démentir ici, j'imagine, sans qu'ils le prouvent, nous n'aimons pas vraiment l'égalité, qui est sans doute le moteur fondamental de la justice. Ce qui est terrible dans la justice, c'est quand elle est injuste. Il y a quelques années, vous souvenez, en 1990, les parlementaires avaient voté une loi improprement, parce que trop globalement qualifiée, d'amnistie des partis politiques. En fait, il s'agissait pour le Parlement, pour les parlementaires, de se purger de l'accusation d'avoir utilisé des fonds publics à des fins de parti. C'est là qu'on a inventé la magnifique expression « il n'y a pas d'enrichissement personnel ». Je suis admiratif. C'est passé très bien. Je n'ai pas entendu que beaucoup de gens protestent. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence quand on vous prend de l'argent dans la poche entre le fait qu'il serve à plusieurs ou à un seul. Moi, j'appelle ça un voleur. Alors qu'on soit voleur pour son parti ou voleur pour sa propre poche, pour soi, pour moi, c'est la même chose. Et d'ailleurs, pour la loi aussi. L'enrichissement personnel, c'est contraire au principe de l'égalité, mais c'est aussi contraire au principe d'égalité. Eh bien, lorsque cette loi a été votée, j'étais procureur à Chambéry, à me préoccuper d'un peu d'agitation dans un quartier. C'est un de ces quartiers où l'on fait tout pour qu'il y ait des explosions. Ceux qui connaissent Chambéry savent que c'est en bas, et qu'en haut, sur la colline, on a mis les pauvres. Les pauvres peuvent regarder les riches en bas. Ça doit être un plaisant spectacle, j'imagine. Donc on a créé une petite situation quand même de conflit. Et puis ce jour-là, les pauvres en avaient assez d'être pauvres. Ils se sont un peu agités. Je suis allé sur la colline. Je les ai réunis. Je leur ai expliqué que les lois de la République devaient être respectées. Et la réponse a fusé. Qu'est-ce que vous dites aux élus? Est-ce que vous leur dites qu'eux aussi doivent respecter la loi? Je crois que On peut accepter que la justice vous impose la loi, ou que la loi restreigne une activité, une pensée, une conviction même, dans la mesure où tout le monde va se retrouver dans la même situation. La justice ne peut être acceptée que si elle est juste, c'est-à-dire si elle va frapper tout le monde à peu près également. Alors, on ne va pas s'égarer sur le « également », vous me reprendriez, Monsieur le Président. Également, ça n'existe pas. Mais, après tout, c'est aussi ce que l'on veut aujourd'hui. Quand on met la justice en statistique, on nous dit que là, on a répondu à 82% des cas soumis au juge. Là, à 75%. C'est pas normal, il faudrait répondre à plus. En oubliant quand même que la justice n'est pas un exercice mathématique. Et il ne peut pas être apprécié selon ses normes. La justice s'occupe d'un dossier, d'un fait, rapporté à une personne, à une situation considérée. Et il faut bien que les uns et les autres nous acceptions ce fait. Alors ça va nous conduire à la fraternité. Cette troisième partie de la devise de la République, c'est celle qui retient le moins l'attention en définitive. On a dit tout à l'heure que c'était celle qui était venue en dernier. Mais c'est pourtant celle qui est nécessaire aux deux autres. La liberté sans l'autre, la fraternité, n'a aucun sens. Ce n'est que l'exercice d'un égoïsme. L'égalité, est-ce qu'elle peut exister sans la fraternité? Est-ce qu'il peut y avoir véritablement égalité si l'on attribue à chacun le même coefficient, sans tenir compte de ses origines, de ce que la vie lui a donné? Il me semble, moi, que le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans les cités périphériques de nos grandes villes, où nous avons, pour notre plus grand bonheur et notre plus grande tranquillité, concentré les plus pauvres, ce qui présente un avantage, c'est qu'au moins, ils n'offensent pas notre vue, eh bien, on a créé toutes les conditions de l'explosion. Je m'étonne toujours qu'on vienne nous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment qu'est-ce qui se passe? Regardez, on voit grimper dans toutes les villes l'immobilier. Je me souviens, j'étais à Valenciennes à un moment donné où on est passé de la basse pauvreté à la moyenne pauvreté. Donc la ville progressivement s'est refaite. On a refait des quartiers dans le centre-ville. Le problème, c'est que quand vous rénovez des immeubles, ceux qui les habitaient avec un petit loyer ne pourront plus les habiter. Ils vont devoir partir. Ce phénomène, qui est sans doute un phénomène normal dans un système comme le nôtre, eh bien, va mettre à l'écart et de plus en plus des gens qui ne pourront plus vivre. On laisse l'immobilier, ou on laisse les prix de l'immobilier grimper. Bon, ceux qui sont propriétaires, sans doute, peuvent s'en féliciter. Peut-être pas au nom de l'intérêt général. Parce que progressivement, le cœur des villes, eh bien, va se vider des gens qui ne pourront plus y habiter. Ce qu'on appelle la mixité sociale, c'est aussi une mixité par l'argent. Si l'argent chasse les plus pauvres, écarte les plus pauvres des plus riches, en tous les cas, les moyennement pauvres des moyennement riches, pour être plus simple et plus proche de la réalité, que va-t-il se passer? Ben nous irons d'explosion en explosion. Et on demandera une fois de plus au juge de réparer les dégâts. Et sur quel thème? Débarrassez-nous de cela. Et comment puis-je le faire au nom de l'intérêt collectif si celui-ci ignore que son propre intérêt passe aussi par un système d'égalité fraternelle? Oui, on ne peut pas tout donner au même. Et répartir, ça n'est pas répartir dans l'égalité. C'est d'abord répartir dans la fraternité. C'est considérer l'autre pour une personne, quel que soit son niveau social, quelle que soit son appartenance sociale. La fraternité, ça conduit le juge à réprimer ce qu'il doit, mais en tenant compte de ce dont il est saisi. Quand on me demande, dans une ambiance hautement sécuritaire, à corps et à cri, de faire mettre à la maison d'arrêt quelqu'un, je ne suis pas sûr que ce soit de la fraternité qui s'épanouisse le plus dans la demande. Non, c'est écartez-les. Écarter les prostituées qui encombrent les trottoirs et qui me dérangent la nuit. Écarter les jeunes maghrébins parce qu'ils me troublent dans ce que je suis. Parce que même si on n'a rien à leur reprocher, le fait qu'ils soient différents de moi m'inquiète et suscite la crainte. Oui, le sentiment d'insécurité fait partie des réalités. Il n'est pas forcément insécurité. Il y a quelques années, quand j'étais à Valenciennes, j'ai tenu un conseil local de sécurité dans un bourg, un gros bourg. Et je me disais, mais est-ce que vous avez de l'insécurité? Ah oui, 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 oulala, beaucoup. Ah oui, écoutez, moi je constate que sur une année, il y a eu un cambriolage. C'est tout de même pas une insécurité majeure. Ah oui, mais l'autre jour, vous savez, là sous le réverbère, il y avait 3 étrangers au village. On s'est senti en insécurité. Mais si on a toujours peur de l'autre, on sera toujours en insécurité. Si on veut bien, de temps en temps, sortir de son propre cloisonnement, de son propre égoïsme, et aller vers l'autre, je pense qu'il se passera d'autres choses que ce que l'on connaît. Et puis, pour le juge, est-ce qu'il a le droit d'abattre la répression sur quelqu'un si la collectivité ne lui a pas donné toute chance d'échapper à la délinquance? Bon, je ne dis pas que les pauvres deviennent délinquants, ce serait un peu facile, ni les chômeurs. Je dis simplement qu'on ne peut pas laisser de côté une idée qui est une idée d'évidence que certaines situations, certaines frustrations, favorise la délinquance. Il y a d'autres frustrations qui favorisent la délinquance. Est-ce que une société est vraiment fraternelle quand elle s'autorise à incarcérer dans nos prisons des gens qui ont sans doute violé la loi, je veux le croire pour la plupart, et qui sans doute méritent d'être mis à l'écart, je veux le croire pour la plupart, mais dans des conditions qui sont incroyables. Incroyables. Et regardez, ça fait des années que ça dure. Il n'y a pas si longtemps, mais plusieurs années déjà, un médecin-chef de la santé a fait un livre. Et ça n'était pas le premier pour dénoncer les conditions dans lesquelles étaient incarcérés des prisonniers. L'incarcération est légitime, je ne la discute pas. Je suis assez pourvoyeur de maisons d'arrêt pour ne pas avoir l'hypocrisie de dire « non, ça n'est pas moi ». Non, je le fais. Et après, est-ce que je dois dire « je ne le fais pas parce que vous, citoyens de ce pays, vous ne faites pas l'effort nécessaire pour que la dignité soit conservée à celui qu'on va justement écarter de la vie sociale ?» On vous dit que dans les prisons, on viole, parfois on tue, on vit dans la peur, la crainte. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la prison, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un monde différent de celui dans lequel nous vivons. Sauf que le témoignage y est encore plus difficile, parce que la sanction vient vite. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Combien de temps est-ce? De quelle sorte de fraternité nous avons besoin pour au moins accepter cette idée que si nous avons le droit d'écarter ceux qui violent nos lois, lorsque c'est grave, eh bien nous devons en revanche leur donner des conditions de vie décentes dans cette situation d'enfermement. Voyez, là aussi, au nom de la liberté, on en prive quelques-uns, ce qui est légitime. Au nom de l'égalité, on aimerait que tous ceux qui doivent y aller y aillent, et seulement ceux-là. au nom de la fraternité, on peut aussi souhaiter que réprimer, ça ne soit pas humilié, ça ne soit pas autre chose que ce que nous souhaitons. C'est-à-dire, en fait, mettre quelqu'un en prison, c'est l'écarter, avec le désir, bien entendu, que ressorti, il soit meilleur. J'étais un peu indigné récemment, vous avez peut-être suivi, hein, il y a eu un match, enfin, c'est cet endroit, vous savez, là où on se bat. Il y a des gens qui jouent au ballon, et puis autour des gens qui se battent. C'est ça un match de football, maintenant. Je crois que je ne peux pas le décrire mieux. Donc, un garçon de 21 ans a acheté un pétard sur la pelouse, un sapeur-pompier l'a ramassé, il a perdu 3 doigts. C'est grave, triste. Mais avions-nous besoin de faire incarcérer ce garçon? Il n'a jamais voulu mutiler le sapeur-pompier. Jamais. Je l'ai vu, c'était un pauvre garçon. Pris dans une ambiance. Est-ce que là aussi... La simple fraternité ne doit pas nous conduire, ne devrait pas nous conduire à une analyse un petit peu moins abrupte que Haro sur ce garçon. Voilà, la presse le désigne comme quelqu'un d'inestimable. C'est pas le cas. Alors on l'a mis en prison. On l'a mis en prison parce que l'on croyait que c'était ce que vous vouliez en réalité. Ne vous y trompez pas. Cette justice qui est la vôtre, elle se rend en votre nom. Et ce qui devient un peu gênant, c'est que l'opinion publique, cette prostituée qui tire le juge par la manche, selon la formule célèbre, l'opinion publique le réclame, ou bien est interprétée. Elle est interprétée par des médias. Alors, Haro sur les médias. Non. Je n'arrive pas à comprendre par quel dévoiement des gens intelligents finissent par nous expliquer que la presse est responsable de tout. La presse, ça n'est qu'un média, précisément. Puis c'est d'abord une entreprise. La presse... a pour vocation de gagner de l'argent. Ce qui fait qu'elle s'intéresse à des événements beaucoup moins intéressants que d'autres qui ne l'intéresseront pas. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait le pouvoir de la presse? C'est nous, n'est-ce pas? C'est le pouvoir que nous lui accordons. Quand nous leur réclamons d'être présents, nous leur donnons du pouvoir. Vous ne voulez pas y être, n'y soyez pas. Et ça peut se faire sans vous. Ben oui, il y a une évolution quand même assez caricaturale. Il y a quelques années, il y avait quelques journaux, Voici, Gala, Point de vue. C'était étonnant. Les gens ne le lisaient que chez le coiffeur. Voilà. Ils l'avaient trouvé là pour s'occuper un peu. Aujourd'hui, non, ils vont l'acheter. Ils l'étalent. Vous allez chez un avocat, vous trouverez Voici et Gala. Ça fait partie de la clientèle et du service qu'on peut lui assurer. Mais qui est responsable? Et c'est par là que je voudrais en finir. La responsabilité, c'est celle des citoyens dans un pays comme le nôtre. Parce que ce n'est pas notre passivité qui condamne la devise de la République. Qu'est-ce que nous voulons en faire? Est-ce qu'à force de l'avoir... au fronton des bâtiments publics, nous n'avons pas fini complètement par oublier ce qu'elle voulait dire. Et certains s'en souviennent. Prenez garde. Même si par passivité, par lâcheté, vous ne souhaitez pas vous en mêler, laisser se faire les choses. Vous verrez que, rapidement, nous serons submergés par ceux qui veulent quelque chose. Une autre vie. Une vie à laquelle ils ont droit aussi. Il y a quelques temps, la justice de Nice est un peu spéciale. Il a 3 portes, dont une qui est obstruée. Et la devise de la République s'étale sur les 3 portes, celle de gauche, liberté, au centre, égalité, et à droite, fraternité. Bon, voilà, celle du centre est fermée. Et un jeune homme d'origine arabe, il n'y a pas très longtemps, je rentre au palais, il dit « Monsieur, regarde, la porte égalité, elle est fermée. » Eh oui. elle était fermée. Je pense que ces trois mots, qu'on finit par un peu négliger, ces trois mots constituent un tout cohérent, mais c'est un tout dont les citoyens doivent s'emparer. Ça n'est pas le rôle des juges, en tous les cas, pas essentiellement, pas fondamentalement, d'assurer le respect de la devise de la République. C'est dans la volonté de chacun qu'on trouvera la solution.